RFI.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot. Le mois d'avril commence et les gros poissons du foot anglais sont à la lutte pour aller chercher le titre. Liverpool et Manchester City ont gagné ce week-end, chacun dans son style. Victoire assez sereine pour les Citizens, victoire plutôt heureuse pour les Reds qui ont profité d'une grosse bévue du gardien de Tottenham, Hugo Lloris, relâchant le ballon comme un poisson mal accroché à l'hameçon. Que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre. On va voir s'il faut condamner Hugo Lloris ou bien le défendre, avec réunis autour de cette table Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour à tous, messieurs, mesdames, tout le monde.
Naïm Moniol d'Eurosport, bonjour Naïm.
Salut Christophe, salut à tous.
Et Salim Bongali de RMC Sport, bonjour Salim.
Bonjour Christophe, salut à toutes et à tous.
En Espagne, le navire de pêche Real Madrid avait placé à l'arrière un certain Lucas Zidane, un jeune mousse dont la titularisation fait de la mousse justement dans les buts aux dépens de Navas. Quelques questions, même si finalement le Real a ramené dans ses filets les trois points de la victoire. Au sommaire encore, le foot en France, spectacle plus ou moins intéressant ce week-end, vraiment moins concernant la finale de la Coupe de la Ligue, marquée toutefois par la victoire de Strasbourg. Spectaculaire, 30e journée de Ligue 1 au contraire, avec notamment un mano à mano qui continue entre Lille et Lyon, tandis que l'OM est décroché. C'est Radio Foot, préparé avec David Finzel et Laurent Salerno. Annie Gasnier nous écoute peut-être quelque part en ce lundi au soleil dans le bassin parisien, mais elle sera de retour dès demain et nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Robertson. Salah pulling away, he's not picked up. Oh, it's an Edison on goal. A wonderful moment for Liverpool. And Tottenham had no answer.
In this title race, shocking from Lloris. He has to do better.
C'est une finale de Coupe du Monde incroyable.
C'est cette finale.
C'est une finale avec une énorme erreur de gardien pour Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France.
Le fait du match, c'est cette 93e, 94e minute et cette énorme erreur d'Hugo Lloris.
This is one of the world's top class goalkeepers. What is he doing here?
Voilà, alors c'est pas gentil, mais on est allé à la pêche au bourde de Hugo Lloris et avec celle de l'équipe de France, éliminatoire contre la Suède, cette défaite de 2-1.
Ah, vous êtes remonté loin quand même.
C'est pas si vieux que ça.
On va creuser loin quand même.
Sacré bourde quand même, Marc Libra, pour Hugo Lloris.
Pour moi, c'est pas une bourde, donc après, voilà.
Alors,
quand je dis c'est pas une bourde, c'est que j'ai revu plusieurs fois les images, vu le match. La tête de Salah est assez, alors ça là, on reviendra sur les déclarations et cette tête. Devant lui, il y a déjà pas mal de monde. Donc, il fait cette claquette, Samba, passe avec, contre Monaco, avec le gardien de Caen, a fait deux, trois claquettes, mais elle part dans le bon sens, là, la claquette qu'il fait. Il fait une claquette, il fait un arrêt réflexe. On peut pas lui dire à ce moment-là, fais-moi un arrêt bien pour la photo et tu te poses. Là, malheureusement, après, il y a le contre, parce que...
Non, ce que vous nous dites, c'est qu'il essaye pas de capter le ballon avec les deux mains.
Il peut pas la prendre, mais ça va trop vite. Mais c'est pas possible, ça va trop vite. On pense qu'il peut essayer, mais ça va trop vite.
Mais la tête de Salah n'est pas si appuyée que ça.
Ah oui, mais ça, c'est ce que vous pensez. La réalité du terrain, elle est autre. Parce qu'elle est assez forte, elle arrive à la vitesse. Enfin, c'est pas un ballon, c'est pas une feuille morte, quoi. C'est pas un ballon qui va arriver. Donc, pour moi, faut se poser la question, pourquoi la relance dans l'axe? Pourquoi personne ne sort sur le côté, sur le centre? Pourquoi sur le centre, deux défenseurs sont devant Lloris alors que finalement on peut décaler? Donc, oui, ok, c'est le dernier rempart, c'est la boulette. Mais je pense qu'avant ça, c'est pas le seul fautif dans l'histoire. Et en plus, il y a toujours cet effet de, je veux faire une claquette, attention mon gardien, je vais dégager, je dégage pas, voilà.
Je rappelle juste pour ceux qui n'ont pas vu l'image que donc, Hugo Lloris relâche le ballon sur les pieds de Alderweireld qui marque contre son camp. On est à la 90e. Il y avait un but partout et il y a deux buts à un finalement. Salim.
Il y a plusieurs choses quand même sur cette action. Marc l'a dit, il y a d'abord, avant d'évoquer le cas Lloris, le cas du placement défensif des joueurs. On en parlait en off avec Naïm également. C'est vrai que Mohamed Salah, tout seul dans la surface comme ça, à la 90e, sur un ballon qui revient dans un second temps, c'est anormal que Mohamed Salah, le meilleur buteur égyptien, et Naïm le dit, 6 joueurs de Tottenham sont dans la surface, c'est anormal qu'il soit esseler ainsi. Donc là, c'est effectivement une première erreur d'abord des défenseurs, des joueurs à vocation défensive de Tottenham. Après, là où je suis pas d'accord avec Marc, c'est que la tête est à pied ou pas, peu importe, de toute façon les impressions à la limite. Mais que cette balle passe malgré tout en partie entre les mains de Loris, c'est ça aussi. Parce que Loris qui veuille capter ou pas, peu importe à la limite, mais la balle passe quand même entre ses mains. Il ralentit le ballon et elle est avérée ensuite le contre. Donc il y a quand même une erreur d'Hugo Loris. On peut pas dédouaner Hugo Loris. Il a fait une erreur, c'est pas la première avec Tottenham, il a aussi sauvé cette équipe tout au long de cette saison.
Exactement.
Mais là précisément, cette balle, qu'elle soit appuyée ou pas, moi je pense pas, après Marc, c'est lui qui connaît le terrain, pas moi, même si elle est appuyée, il peut pas faire et laisser en sorte que cette balle passe entre ses mains, il y a une erreur de sa part.
Le vrai problème de cette boulette, parce que je pense aussi que c'est une erreur d'Hugo Lloris, c'est qu'elle a lieu dans un match contre Liverpool, à un moment donné où Tottenham fait 4 défaites en 5 matchs, où derrière ça resserre, où c'est le match peut-être tournant, alors il reste 7 journées, l'avenir très proche va le dire, mais c'est peut-être le match tournant de la saison, le match qui va faire que Tottenham n'accrochera pas la Ligue des Champions en fin de saison. Alors effectivement, s'il y a une parade ou deux contre Fulham, contre Huddersfield ou contre Wolverhampton, elles sont moins visibles parce que c'est des matchs que normalement Tottenham gagne. Donc c'est voilà l'adversaire, le contexte, les conséquences, le moment du match, les conséquences mathématiques font que cette boulette est démultipliée x2, x10, x100. C'est terrible parce que Hugo Lloris, moi je l'ai jamais dédouané de ses erreurs, que ce soit en club, en équipe de France, et dans cette émission on peut le dire, on peut retrouver les podcasts. Mais je pense que sur les dernières semaines, à un moment donné où Tottenham marque le pas, s'il y en a bien qui maintient son équipe et qui a une régularité dans ses performances, c'est lui. Faut être honnête.
Et encore une fois, le contexte est effectivement, et l'impression est démultipliée parce que juste avant Tottenham, on a eu des opportunités. Voilà. 5 minutes avant ce but-là, il y a 3 énormes opportunités.
On
en parlera. C'est pour ça que cette impression cette défaite, Loris, ben, ça pèse beaucoup sur ses épaules.
Juste, vous qui connaissez bien le foot anglais, dites-nous, quelle image a actuellement Hugo Lloris?
Très mauvaise.
En Angleterre.
Très mauvaise.
Ici, en France, il est vu comme le gardien des champions du monde. C'est le numéro un dans les buts des Bleus depuis des années.
C'est vrai, c'est un des meilleurs au poste.
Mais
on peut rien dire, nous.
Évidemment. Le problème, c'est bon. Déjà, et c'est malheureux de dire comme ça, mais il faut le dire pour que les auditeurs le comprennent. Lorsque vous êtes français et que vous allez en Angleterre, même s'il y est depuis plusieurs saisons, malgré tout, déjà, il a un déficit, déjà, à la base. Ensuite, dès que vous faites la moindre erreur, celle-ci est démultipliée. Alors, peu importe le gardien, De Gea, Pickford, tout ce que vous voulez. Mais comme les autres donnent l'impression, et même c'est pas qu'une impression puisque c'est un fait, en font beaucoup moins que lui n'est gardien entre guillemets que de Tottenham. Les autres sont des gardiens de United, Manchester City, Liverpool, et en plus en font beaucoup moins des erreurs. Aujourd'hui, Hugo Lloris est, pour beaucoup d'anglais, pour les observateurs, les journalistes, les grands consultants, les grands noms également qui sont là-bas, il est considéré très en dessous par rapport à Ederson, De Gea, Alisson, par rapport à ces gardiens-là.
Ce qui est assez fou quand même avec Hugo Lloris, c'est qu'il y a effectivement des boulettes, et vous parliez tout à l'heure de son historique, et c'est vrai qu'il y en a, on en a tous en mémoire, 2-3. Mais ce qu'il faut dire, et je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps chez nos confrères d'RMC, Salim est témoin, que ces boulettes-là, en fait, n'impactent pas réellement le score du match par rapport aux arrêts qu'il fait qui ramènent des points. Et donc, si vous faites la balance, il ramène plus de points qu'il en fait perdre, Hugo Lloris. Donc ça veut dire que ce déficit d'image et cette espèce d'antagonisme qu'il y a contre lui, en fait, c'est plus humain que professionnel. Ce qui renforce quand même, c'est l'aspect dramatique de la chose, parce que c'est pas un mauvais bougre, pas du tout. Mais je pense que c'est bévu. Pèse encore plus sur sa mauvaise image, alors qu'elle ne coûte finalement moins de points qu'on le pense.
Et on se souvient plus de ses bévues, par exemple, que de ce pénalty arrêté face à Aubameyang. Mmh. Il l'arrête de manière impeccable lors du Tottenham Arsenal, mais on se focalise davantage sur ses bévues que sur ses parades-là.
Marc, Salim a tout dit. Moi, j'ai joué en Angleterre, j'étais un étranger, quoi. Mais qu'on le veuille ou non, en Écosse, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on a inventé le football, les Anglais. Vous comprenez? Vous êtes, ouais, mais bon. Non, mais c'est toujours cette façon dont hier soir certaines chaînes anglaises, j'écoutais un petit peu, ça m'amuse de regarder, se poser la question, l'année prochaine il faut changer vite Lloris, quoi. On peut pas garder Lloris, les mecs annoncent ça sur, et c'est des grands joueurs, attention.
Tout à fait.
Moi j'aime bien zapper un petit peu, d'autres, les mecs n'ont pas peur de dire mais attendez, il faut se poser des questions par rapport à Hugo Lloris, quoi. Mais aujourd'hui, si tu perds Lloris, qu'est-ce que tu fais à l'Angleterre? C'est pour moi, avec De Gea, c'est un petit peu la référence aussi. Et non attention, donc c'est compliqué pour lui.
Alors, on va revenir au résultat de ce match. Donc, la victoire de Liverpool, 2-1. Certains ont trouvé que ce succès était un peu laborieux, une critique qui n'a pas vraiment été du goût de l'entraîneur Jürgen Klopp.
Si vous voulez que nous gagnions 5-0 tous nos matchs, ça ne va pas être possible. Face à Tottenham, bien sûr, cela aurait pu même se terminer de la mauvaise façon, c'est vrai. Nous ne sommes pas des machines. Il y a 9 mois, lorsque nous avons débuté ce périple, nous voulions atteindre le sommet en championnat comme en Ligue des Champions. On le fait à notre manière. On dirait qu'il faut toujours que l'on s'excuse de ne pas jouer notre football de la saison dernière. Mais nous devions trouver un moyen de remporter plus de matchs de football que par le passé. Les gars travaillent dur, vous savez. Et si nous sommes toujours en tête du classement après le dernier match de la saison, ce sera, croyez-moi, un titre de champion mérité.
Voilà, même dans la difficulté, bah, Liverpool finit par gagner.
C'est dur, mais est-ce que c'est pas ça des victoires de champions?
Non.
Face à Everton, il y a 0-0 il y a quelques semaines à Anfield, et Origi qui marque à la 96e sur cette balle qui rebondit bizarrement sur la barre transversale.
Watford, le gardien qui fait 3 boulettes sur 4 buts.
Cette saison, Liverpool, c'est quand même 11 buts qui ont été marqués au-delà de la 85e minute. Donc, alors on peut critiquer dans le jeu à juste titre, et Marc fait bien de le dire, mais c'est une équipe qui continue d'essayer de faire des choses jusqu'à la fin des rencontres. Depuis, à partir de la 85e minute, c'est 7 points obtenus Liverpool. C'est pas risible quand même. Puis, ça veut dire que jusqu'au bout ils y vont.
On en parlera peut-être tout à l'heure avec Lille, mais t'as quand même un truc qu'il faut dire avec cette année Liverpool, c'est que quand collectivement c'est moins fort, et je pense que c'est moins fort sur les dernières semaines, ça prend plus de buts, c'est moins souverain, ça déroule moins. Il y a des individualités qui lâchent pas. Il a pas marqué ce week-end, mais Mané en 2019, c'est juste le meilleur joueur. Voilà. Hier, vous avez Salah qui est en grande difficulté en 2019, mais c'est quand même lui qui met la tête. Et ce genre de but, ça peut le remotiver. Il y a Divo Origi, on en parlait il y a 20 secondes. Remplaçant de luxe qui gratte du temps de jeu. Fabinho qui est absolument placardisé jusqu'au mois de décembre, qui aujourd'hui est devenu un joueur essentiel. Donc, même si collectivement c'est moins bon, vous avez toujours des individualités qui tirent le truc vers le haut. Moi, la seule interrogation que j'ai, parce que Liverpool est encore engagé en Ligue des Champions, c'est combien de temps ça va tenir avec finalement une équipe qui tourne quasiment pas, très peu, qui est engagé sur tous les tableaux, enfin sur la Ligue des Champions et les championnats, les principaux. Voilà, c'est la seule interrogation que j'ai. Mais sur cette dynamique, il reste 7 journées en Angleterre. Pour moi, ça peut aller au bout. Hein. On a vu bien pire que ça. Hein.
Alors, on va passer au poursuivant de Liverpool et Manchester City, qui lui aussi s'est imposé. C'était samedi à Craven Cottage face à Fulham, 2-0. Bernardo Silva avait mis les Citizens devant dès la 5e minute. Et Manchester City, donc, qui suit le rythme de Liverpool avec un match en moins. Et là, c'est intéressant parce que mathématiquement, et on va écouter d'ailleurs tout de suite Pep Guardiola. Il est évident que si les Citizens ne font aucune erreur, et ben ce sont eux qui seront champions.
Il nous reste 7 matchs en Première Ligue. Nous devrons tous les gagner si nous voulons être champions. Ça ne sera pas facile car nous avons un adversaire très très fort, mais c'est le challenge.
Voilà, Pep Guardiola, le challenge, ouais. Tout gagné.
En même temps, voilà, c'est un fin mathématicien. Hein. S'il gagne tout, effectivement, il est sûr d'être champion. Bon, c'est un fait en même temps, puisqu'au moment où nous parlons, il y a 2 points d'écart entre Liverpool et City. C'est vrai que ce week-end, face à Fulham, c'était quand même très tranquille. Hein. On va pas le nier. Le seul truc, c'est qu'Aguero a marqué encore un magnifique but. Marc l'a vu et a dû l'adorer. Après, le seul petit couac, c'est Aguero qui sort à la 55e. Alors, pour le coup, Guardiola n'a pas été le cas en conférence de presse en disant qu'il y aurait des examens ce lundi, justement. Donc, pour l'instant, on ne sait pas plus. On en soit
après, il tourne plus.
Davantage mardi.
Il faut dire qu'il a les moyens de
City,
tourner.
City, oui, mais alors, Liverpool a un petit peu quand même des joueurs sympas sur le banc, moins certes que City. Ah, non, mais bien sûr, mais du côté de City, ça tourne et ça force moins sur ce match-là. La mi-temps, c'est réglé. Après, on gère. Ils ont été dans le dur à une période. Là, ils sont plus dans le dur aujourd'hui.
C'est vrai, même si Aguero, là, vous le remplacez par Gabriel Jesus, hein, c'est pas n'importe quoi, mais Aguero est quand même au-dessus. Si Aguero est vraiment blessé de manière un peu plus lourde, parce que ça reste une blessure musculaire, une gêne, on ne sait pas trop encore une fois, ça peut être gênant, encore une fois, pour ce match qui aura lieu ce mercredi, la demi-finale de Cup, et puis après la Ligue des Champions, en fonction de la durée de l'absence.
Ça, c'est pour la pointe, mais si tu prends sur les côtés, t'as Sané, t'as Sterling, quand c'est moins bien, bah, t'as Bernardo Silva et t'as Mahrez.
Oui, bien sûr.
Tu peux tout faire, que... De Bruyne n'est pas là, bah,
et
c'est
ces
pas
mecs-là
grave,
peuvent marquer aussi.
Tu fais monter Gundogan, et puis t'as Foden qui est très très bon, et puis ils ont un effectif qui est évidemment plus
large. Plus tous les jeunes qui arrivent aussi.
Bien sûr, c'est beaucoup plus large que Liverpool.
Alors, encore une fois, le fameux tournant, ce sera le 24 avril et le derby face à Manchester. C'est là que tout jouera au final.
Ouais, justement. Question calendrier, je ne sais pas si vous avez regardé en détail ce qui est devant nous. City accueille notamment dans les journées qui restent à jouer. City accueille notamment Tottenham et joue à Manchester United. Et Liverpool accueille notamment Chelsea. Impression que Liverpool a un calendrier un peu plus simple que City.
Oui, puis t'as aussi la double confrontation Ligue des Champions contre Tottenham pour Manchester City. Donc là, c'est pareil, ils vont lâcher un peu de plumes. Mais oui, le calendrier me paraît plus abordable pour Liverpool. Après, c'est pareil, il faut aussi que Liverpool, on en parlait il y a 20 secondes, hein, il faut que les vrais joueurs, les gros joueurs...
Ils sont dans le dur, Liverpool, je pense.
Ouais, ils sont dans le dur, mais c'est pas qu'ils sont dans le dur, c'est que, par exemple, un mec comme Salah marque plus. Tu vois,
donc sait, il a pleuré à la fin du match.
Donc un mec comme Salah ne marque plus, donc Firmino, qui est très actif et qui travaille beaucoup pour les autres, marque moins. Alors qu'en début de saison, les trois marquaient. Donc forcément, fais le ratio de ce que tu marques en première partie de saison, de ce que tu marques aujourd'hui.
Firmino a porté cette saison, il a passé un cap. Mané, il est sur la même trajectoire. Ah ouais. Et par contre, c'est Salah qui a du mal. Parce que l'année dernière, il a été
en 2019.
Gigantesque.
En 2019.
Non mais gigantesque. Là, il a du mal. En plus, sa déclaration d'hier, quand il commence à pleurer. Ah non, vous comprenez, les autres, on les considère. Moi, on me considère pas ceci, cela. Il faut rester les pieds sur terre. C'est un très, très grand joueur, très bon joueur. Non mais le titre est si là. Attention, c'est perturbant pour un groupe d'entendre ça. Je suis Mané ou je suis Firmino de dire ouais mais moi les autres. Alors certes il parle d'Aguero et si parce qu'il y a deux plus que moi mais si ah mais c'est pas bon parce que la tête qu'il a à aucun moment vraiment je pense qu'il peut la remettre pour un joueur qui arrive lancé là il tente au désespoir de la piquer comme
mais peut. Ça c'est normal il croque un peu parce qu'il est en difficulté.
Non c'est pas il croque c'est depuis 3-4 mois qu'il croque. Avant il jouait pour le aujourd'hui. Il joue moins pour les autres. On verra si la fin de saison.
Je te dis pas que t'as tort. Non, tort. On peut pas non plus remettre toute sa saison en cause parce que c'est quand même 17 buts en première ligue et sur la première moitié de saison, c'est quand même lui qui te met
la saison passée, il était au-dessus et Firmino et tout avaient du mal. Là, aujourd'hui, Firmino, il est vraiment, pour moi, c'était une référence avec Mané. Ils sont au-dessus.
Mais alors, je vous écoute attentivement, Marc, et j'ai l'impression que pour vous, la tendance, c'est quand même Manchester City.
Pour moi, c'est Manchester City. Ah ouais, je pense que Manchester City. Puis, Jürgen Klopp qui fait encore une interview hier matin chez nos confrères de Téléfoot, c'est qui raconte, on pense que le titre, il n'y a que le titre. Ok, mais attendez, aujourd'hui, non mais c'est la com. Aujourd'hui,
c'est pour les supporters. Tu sais très bien que lui veut tout gagner, mais si. Mais
aujourd'hui, City est en tête. City a s'ils font le sans faute, tu es pas la première ligue. Donc, tu sais quoi, à un moment donné, tu as eu l'opportunité à un moment donné, tu étais en avance, t'avais tout ce qu'il fallait, t'avais tout. Et ça pas su faire. Donc aujourd'hui, ok, on veut, mais il fait profil bas. Ne dis pas, non mais nous. Attention, il y a des champions, encore des choses pour eux. Attention, quoi.
Pour moi, il y a une période de 5 matchs, en fait, pour City. Et c'est pour ça que moi, je vois City en dessous, entre guillemets. Il y a les fameux 2 matchs face à Tottenham et United en 4 jours, donc c'est 2 rencontres. Il y a les 2 matchs de Ligue des Champions qui vont forcément alourdir les jambes. Et puis, il y a ce match à Crystal Palace. Alors, dit comme ça, vous allez me dire Palace City. Sauf que, à l'aller, on a vu ce que ça allait donner. Alors, vous allez me dire, c'était un miracle de Palace de réussir à s'imposer à l'Etihad, mais ils l'ont fait. L'année dernière, à Palace, il y a eu 0-0 avec Ederson qui avait réalisé une parade fantastique, un pénalty arrêté. Je vois pas City gagner là-bas. Et je vois donc City perdre des points là-bas et donc perdre le titre à cause de Palace, perso.
En tout cas, mathématiquement, on sera un peu plus fixé avec ce match en retard qui va être joué ce mercredi par Manchester City contre un autre mal classé. Ouais, hein, après Fulham, c'est Cardiff, mercredi donc. Et là, Liverpool et Manchester City seront exactement à égalité du point de vue des matchs joués.
La meilleure Liga del Mundo.
Leo Messi encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
Dans les buts, Lucas Zidane. C'était ce dimanche au Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane a titularisé son fils, le gardien de but, pour le match du Real contre Huesca. Un match remporté 3-1.
3-2.
Par les Merengues. J'ai marqué remporté 3-3, ça veut rien dire. Par les Merengues. Alors, bon, on avait Courtois qui était blessé et Menavas était dispo. Est-ce que faut y voir un soupçon de favoritisme du père pour son fils, du padre pour son hijo?
Je crois pas une seconde. D'abord, Navas, il est revenu tard de sélection.
Ouais.
Et puis, au contraire, il a raison, Zinedine Zidane, de faire tourner tout le monde, de pas favoriser justement un Navas qui revient de sélection, alors Courtois est blessé, mais on pourrait penser, parce que c'est ce qui s'est passé contre Vigo, il a remis Navas et tout de suite ça a parlé. Donc non, il a eu raison de faire tourner l'effectif, de faire jouer Lucas Zidane. S'il y avait eu du favoritisme, non seulement Lucas serait dans les buts depuis longtemps, mais en plus on aurait eu Enzo depuis un moment dans l'équipe. Et on peut pas dire non plus qu'il ait vraiment favorisé ses fils, même déjà la Castilla. Donc non, il a fait tourner l'effectif. Et moi, je vois aucune malice là-dessous, en tout cas.
On l'a vu avec d'autres équipes et dans d'autres championnats, effectivement, avec ces Sud-Américains, notamment, ou d'Amérique centrale qui sont revenus très tard de sélection. À un moment donné, il faut Et en plus, c'est Huesca en face. Vous pouvez vous permettre peut-être de faire tourner un petit peu avec un gardien qui n'est peut-être pas totalement à 100%. Vous avez Lucas Zidane. Autant en profiter pour le mettre là. Bah, après, on suivra dans les prochaines semaines. Si vous continuez de le mettre, alors vous avez Keylor Navas qui reviendra à 100%. Là, peut-être qu'on se posera
peut-être des questions. C'est intelligent. Il met Keylor Navas. Il prend un deux buts casquette. Tout de suite, ça revient. Oui, Zidane, c'est le Navas. Il a mal. Alors qu'il y a Courtois. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment totalement. Ça va se passer? Donc, il se protège. C'est politique, en fait. C'est très bien joué, en fait, de la part de Zidane de faire jouer son fils. Parce qu'on sait très bien que Lucas, il joue jamais. Si jamais il se trouve et il a pas été extraordinaire sur 2-3 sorties, bah on lui dira rien, c'est le troisième gardien, il est jeune, il joue jamais, on sait très bien que dans la hiérarchie il passera ni devant l'un ni devant l'autre. Donc non, moi je pense qu'il a fait ce qu'il fallait.
Dans les débats en Espagne, Marc, certains pointaient le fait que le Real veuille se séparer de Lucas Zidane, et qu'il y aurait finalement peu d'équipes qui seraient intéressées pour le prendre. Donc là, c'est une occasion de l'exposer, entre guillemets.
De l'exposer. Après, aujourd'hui, Zidane à Madrid, il peut faire ce qu'il veut. Actuellement, il a tous les droits. Donc, il a raison de le faire. Mais c'est normal, quand on a Courtois et Navas, c'est sûr que le troisième gardien, il jouera jamais. Donc, oui, il faut qu'il se montre. Après, face au 20e de la Liga, face à... Bon, mais voilà, l'arrivée, ils s'en sortent bien. Benzema qui les sauve, ils ont gagné, ils ont pas perdu. Mais aujourd'hui, c'est plutôt légitime de faire ce genre de choses. Voilà, Navas qui rentre de déplacement assez tard. Et en plus, ce qui est risqué, c'est qu'on l'a vu, rappelez-vous, Claude Puel en France avec son fils et tout, c'est pas évident comme c'est, voilà.
Ouais, là, mais tu peux pas comparer ça.
c'est un père et un fils.
Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire
si tu veux, on va te taper dessus, voilà. Même si Lucas fait 37 arrêts, ça s'est jamais vu dans l'histoire du football, mais c'est pas normal parce que c'est le fils de, non, aujourd'hui,
Ouais, mais ça, c'est la filiation. Je peux comprendre ce que tu dis, mais si ça avait été le cas, il aurait fait jouer Enzo. Enzo, il a jamais eu le niveau pour jouer en équipe première.
Donc, c'est
aujourd'hui,
pour ça qu'il
joue dans
fait.
Une équipe qui joue le maintien en deuxième
on
division.
On est d'accord. Oui, on est d'accord.
Et Lucas, non, mais après, ça, moi, ça peut comprendre. Si tu fais jouer, par exemple, Reguillon, si tu fais jouer Ceballos, tu peux faire jouer Lucas Zidane. Et, ok, il s'appelle Zidane, il a le poids de son père sur les épaules. Mais s'il est bon et qu'il mérite de jouer, il jouera. Alors, quand au Real, parce qu'il est archibarré. Mais dans un autre club, à ce moment-là, s'il signe dans un club de Liga où il réussit, on va dire, ouais, mais les dirigeants l'ont pris parce que c'est Zidane, c'est certainement un copain. Et puis,
mais ça le suivra toute sa carrière.
Mais voilà, donc, on peut pas savoir.
De toute façon.
À partir du moment où t'es fils d'eux, tu dois vivre avec ça. Mais évidemment que de fin de saison, là, t'as Valence qui arrive la semaine prochaine. Tu crois qu'il va mettre Lucas Zidane dans les buts? Bah non.
C'est pour ça. Voilà. Là, c'était l'occasion idéale. Vous aviez Huesca en face. Vous aviez un gardien qui n'était pas à 100%. Mettons-le. Et ça a été très bien résumé par les camarades. On en profite. S'il se fait une boulette, bon, ben, elle remettra plus. Et s'il fait un bon match, bon, il a fait un petit match, c'était bien. On sait qu'Keylor Navas sera là au prochain match.
Et en tout cas, c'était déjà un palier franchi pour Lucas Zidane puisque c'était la première fois qu'il était titularisé. À domicile. But vainqueur de Benzema, donc Marc y a fait allusion, 89e, qui sauve le Real, parce que le Real, du coup, prend les 3 points et est toujours 3e. Alors, 2 points derrière l'Atlético, hein, le classement n'a pas changé, l'Atlético était allé gagner 4-0 à l'Aves, et le Barça, toujours solide leader, 10 points devant son dauphin. Sur un autre sujet, et là je vais revenir vers vous, Marc, parce que vous parliez de Zidane qui peut faire tout ce qu'il veut actuellement. C'est un autre thème parce que Zidane a marqué la fin de semaine aussi en prenant la parole sur Paul Pogba.
Ça a un peu fait parler en Angleterre aussi.
Oui, j'imagine. Et ben, on va l'écouter d'abord ce qu'il a dit sur Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United pour l'instant.
S'il doit avoir une autre possibilité de faire quelque chose après Manchester United, ben pour lui, il a toujours dit que Madrid c'était un club qui l'intéressait beaucoup, mais c'est surtout Madrid. Plus que Zidane, c'est surtout le Real Madrid. Mais il a toujours dit, hein, que c'était après son expérience Manchester United, pourquoi pas, et cette possibilité-là.
Voilà, Zidane qui fait un énorme appel du pied. Est-ce que Manchester United doit...
Il dit quand même qu'il en a parlé avec lui, c'est lui qui l'a dit. Hein.
Ouais.
Il dit pas, attendez, je pense que... Là, il dit, oui, il me l'a dit. Paul me l'a dit, on en a parlé, quoi.
Mais
donc, voilà.
Ouais. Par rapport au thème dont on parlait, les pouvoirs de Zidane actuellement au Real, est-ce que Zidane aurait tenu ce genre de propos lors de son premier passage en tant qu'entraîneur du Real il y a 3-4 ans?
Quand il a repris les rênes, qui met Casemiro, qui replace Casemiro, qui fait des choix importants, président, je pense qu'il est capable de tout diriger. Hein. Mmh. Je ne sais pas qui peut lui dire, ben non, tu te trompes.
Peut-être pas lui dire tu te trompes, mais Florentino Pérez s'est jamais caché pour faire des dossiers derrière son dos, et c'est une des raisons qui l'a fait partir la première fois.
Et après, est-ce que ces dossiers que Florentino Pérez met en avant, est-ce qu'ils jouent? Non.
Non, 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 mais ce que je veux te dire, c'est que, ce que je veux te dire, c'est que Zidane ou pas Zidane, si Florentino Pérez
ah oui, il a décidé un dossier dans son dos,
le fait. Peut-être que là, dans les conditions du retour de Zidane,
voilà,
il y a le fait que Florentino Pérez ait dit, maintenant, c'est toi qui tiens la baraque.
C'est ça. C'est surtout là, il vient d'arriver, il a carte blanche absolue.
Mais c'est ça.
Donc, entre guillemets, il peut presque dire tout ce qu'il veut au final, Zidane.
Bien sûr. Et ce qui tranche, c'est que tu l'entends jamais normalement dire ça sur aucun joueur. Niveau de la communication, t'as jamais, puisque des joueurs qui suivent, qui pissent, il en a vu plein sur son premier passage et j'imagine bien que Pogba il passe là.
Il ne nous dit pas tout.
Bien sûr, hein, ça est très secret, Zizou.
Le coquin, Zizou.
Oh, quel coquin. Et tu sais, non mais il nous habitue pas à faire ça. Quand il dit, moi il m'a dit qu'il voulait jouer avec moi, bien sûr, Madrid est intéressé et puis on aimerait bien l'avoir. En plus, il nous l'a dit, c'est voilà, ça veut dire. Mais après, s'il prend le risque, alors là c'est de la supputation, mais s'il prend le risque de dire ça devant les journalistes, ça veut dire que potentiellement, les négociations doivent être plutôt bien engagées. Parce que sinon, il ne prendrait pas le risque de dire ça comme ça.
Ah, parce qu'on est le 30 mars. Enfin, il a fait cette déclaration le 30 mars. Ouais. Le mercato, c'est en juin quand même. Donc, il y a beaucoup d'échéances, que ce soit pour le Real ou pour Manchester United aussi. Et pour Pogba en Ligue des Champions, en Première Ligue. Donc, et Naïm le dit, à un moment donné, si vous avancez tellement... Ouais. C'est que le mercato doit être déjà avancé, c'est qu'en fait ils sont pas le 30 mars eux, mais ils sont déjà en juin quasiment.
Alors ce lundi, Ole Gunnar Solskjær, l'actuel entraîneur de Paul Pogba, merci, je me suis beaucoup entraîné, a parlé du sujet et à propos de Pogba, et il a dit j'ai toujours dit que je voulais construire mon équipe autour de lui et ça n'a pas changé.
Après, ben, Ole Gunnar Solskjær l'a connu en tant que jeune, en équipe de jeunes à Manchester, il l'entraînait déjà en équipe de jeunes, et lors de la toute première conférence de presse de Solskjær, la toute première. Il a dit effectivement ça. Il avait dit, Pogba sera le centre de mon jeu, de l'équipe que je veux mettre en place.
Il avait même dit, Salim, si tu te rappelles bien, quand il était à Mol 2, ils avaient été le voir, je sais plus pourquoi, c'était encore Mourinho, il lui avait dit, moi, si j'étais entraîneur de Manchester, je mettrais tout autour de Pogba, machin. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir que, tant pour des raisons différentes, dans des contextes différents, mais Manchester United et Real Madrid se retrouvent dans la même situation, il faut tout rebâtir. Il faut rebâtir, c'est-à-dire que voilà, les deux arrivent, pour remplacer celui qui vient de partir, ça se passe bien, ils ont quasi crédit illimité parce que Solskjær, quand bien même il finirait pas dans les quatre, ce serait compliqué en éliminant le PSG,
il a fait le plus gros.
Donc c'est-à-dire que les deux viennent pour rebâtir, ils ont la confiance de leurs dirigeants, ils ont des moyens financiers évidemment très colossaux, et là on va aller faire les courses. Et là c'est à celui qui est le plus fin négociateur, à celui qui a le projet le plus ambitieux. Évidemment, je pense que quand on s'appelle Zidane, c'est un argument et supplémentaire Madrid, que quand on s'appelle Solskjær, surtout quand on parle à un Français. Mais après Manchester United est capable aussi d'avoir un coût de centaines de millions, de bâtir un projet plutôt sympa. Hein.
Parce que je rappelle encore une fois, et United fait partie de ces clubs qui entre guillemets financièrement n'ont pas besoin de vendre. United est dans le vert, donc Pogba ça peut rapporter, je ne sais pas, 100, 120, 150, 180,
au moins.
En soi, United n'a pas besoin de cet argent-là.
Puis il y a quand même un avantage du côté de Manchester United, c'est que l'effectif est plus jeune que celui du Real, donc c'est-à-dire que potentiellement t'as quand même un noyau sur lequel bâtir un noyau plus solide, parce qu'on parle de Pogba, mais t'as Rashford, t'as Lingard, t'as Martial... Tu as
Derrière qui est toujours là, Chaud qui revient là, bon. Voilà.
Si les rumeurs se confirment et que tu arrives à faire par exemple Declan Rice et Sancho, bah alors ok, tu auras une équipe très jeune, tu auras peut-être besoin de 3-4 mecs pour les encadrer, mais tu as quand même une base là qui t'emmène sur les 5-6 saisons à venir.
Pogba, donc le joueur du Manchester United, bon, j'ai l'impression que cette question-là, elle va revenir sur le tapis hein, dans les semaines
avec Madrid, il y en a beaucoup qui vont apparaître avec Madrid.
Oui. Hein.
Un Kylian.
Allez, Strasbourg, qui a gagné la Coupe de la Ligue.
C'est pas la
c'était
même chose, hein.
En direct. C'est pas la même chose.
C'est la faute du ballon.
0-0 à la mi-temps, contre Guingamp dans cette finale de la Coupe de la Ligue. C'était en direct et en intégralité sur RFI. 0-0 à la fin des 90 minutes. 0-0 au bout des prolongations. Mais surtout, tellement peu de spectacle. Est-ce que l'ennui a été unanime autour de cette table?
Oui.
Mais je crois le fait de rien dire, ça veut tout dire.
Moi j'ai regardé le premier quart d'heure et puis j'ai dit à ma femme Marguerite, que j'embrasse, qui nous écoute, on sort, nous allons au restaurant. Et quand nous sommes rentrés, le match n'était pas fini. Bah, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma femme me dit mais il est minuit moins le quart. Bah, j'ai dit chérie, c'est normal, c'est la Coupe de la Ligue. Et puis j'ai vu les deux derniers pénaux, j'ai rien raté. Donc tout se passe bien. Mais après on nous a dit c'est le terrain et le ballon. Donc si c'est le terrain et le ballon, bah, tout va bien.
Non, effectivement, c'est vrai que le contexte du match, alors
la pelouse du Stade Pierre-Mauroy à Lille a été beaucoup
le terrain a été décrié et
c'est un mushroom, c'est un champignon.
Et on le sait nous-mêmes quand on joue des matchs entre amis, on le sait parfois quand le terrain est dégoûtant, ben ça fonctionne pas. On peut le dire, il y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses, il y a des erreurs techniques de part et d'autre, il y a des faillites individuelles de part et d'autre qui ont fait que ce match a été une horreur absolue.
Puis c'est surtout que les mecs, ils ont pas joué une finale. Enfin, t'avais l'impression de voir un match de 25e journée de Ligue 1 où t'as rien à jouer, rien à perdre, rien à gagner, où t'étais plutôt là à jouer en attendant que ça se termine parce qu'il fait froid.
C'était nul de chez nous. On était là à tenir le
point.
Tu
joues une finale, Guingamp, les mecs de Guingamp et de Strasbourg, faut dire la vérité, à une ou deux exceptions près, ils en joueront combien des finales dans leur vie?
Bien sûr.
Mais ils en joueront jamais, il y en a là-dedans, c'est l'apothéose, c'est le meilleur joueur de leur carrière. Et alors ils avaient certainement peur de le perdre, peur de passer à côté, parce que surtout Guingamp, la saison est pas belle. Mais quand tu joues une finale, quand t'as la chance de jouer une finale, qui peut t'emmener en plus au moins au tour préliminaire de Coupe d'Europe, mais mets-toi minable.
D'ailleurs,
ça n'a rien à voir avec le terrain ou le ballon, c'est de l'état d'esprit.
Même si le seul truc qui irait entre guillemets dans leur sens, c'est que certes ils ont joué une finale, mais eux, contrairement à d'autres équipes par le passé, ne l'ont pas joué au Stade de France. Vous savez, le Stade de France qui a valeur là, de stade, ouais, pour pouvoir jouer une finale, etc. Maintenant la Ligue veut faire tourner ses finales. Bordeaux, Lille, il y a du Lyon à venir, ouais, si je ne m'abuse.
Bientôt ça sera Hong Kong.
Voilà. Mais c'est le seul petit truc, entre guillemets, qui pourrait aller dans le sens, ils ont la chance de jouer une finale, ouais, et on leur permet pas de jouer ça au Stade de France. Okay.
Ça je peux l'entendre, mais à un moment donné, quand tu t'appelles Nolan,
évidemment,
Sorbon, Liénard, que t'étais en national il y a trois piges, mais quand bien même tu tirais là à jouer à Tataouin, la finale, tirais à jouer sur un terrain de PH, t'es en finale de Coupe de la Ligue, c'est, normalement, cette compétition d'abord, elle est pour le PSG depuis 5 ou 6 ans.
Donc pour ça veut dire qu'il la joue pas,
t'as quand même l'opportunité de dégayer un peu ta saison, surtout Guingamp, ça peut t'emmener en Coupe d'Europe, c'est l'apogée de ta carrière pour plus de la moitié des joueurs, mais joue là, mets-toi minable, ça n'a rien à voir avec le ballon ou le terrain. Mais ça, après, là, on va sortir du truc, mais ça c'est très mentalité française, foot français, culture française, de chercher des excuses là où il n'y en a pas, et c'est agaçant au possible.
Ce spectacle attristant tombe particulièrement mal pour la Ligue. Exactement. Qui est en train d'essayer de vendre les droits de la Coupe de la Ligue à partir de 2020.
J'ai envie de dire, ça tombe mal de deux manières différentes, parce que il y a effectivement la vente de ces droits de la Coupe de la Ligue. Pour l'instant, en France, il n'y a aucune chaîne qui ne désire l'acheter. Alors, pour pas grand chose peut-être. Et puis également, ils avaient fait un grand communiqué pour diffuser cette finale de manière internationale. Énormément de pays ont diffusé cette rencontre. Alors, pour une fois, il n'y avait pas le PSG. Donc, ça permettait peut-être à ces pays-là de voir d'autres équipes. Pourquoi pas essayer de voir. Au final, regardez le spectacle qui a été donné.
Fiasco total.
C'est un fiasco absolu, et c'est un raté monumental pour la Ligue, même pour la vente de ses droits internationaux en partie, hein, puisque ça a été quand même vendu pour la Ligue 1, mais c'est un gros couac.
Ça veut bien dire qu'il n'y a que le PSG et rien d'autre aujourd'hui, malheureusement. C'est ça qui est terrible.
Non, ça veut pas dire qu'il n'y a que le PSG, mais non, parce que tu as quand même des équipes un peu sympas. On va parler de Lille, c'est quand même une équipe sympa. Lyon, c'est sympa.
Mais ça fait pas vendre.
Non, mais ça fait
tu
pas
dis
vendre.
Pas bonjour, je vais en Asie, je vais vendre. C'est Lille.
Non, non, mais je te dis pas que tu vas vendre en Asie avec Lille et Lyon.
Le but,
mais
c'est.
Ce que je te dis quand même, c'est que tu as des équipes qui font un peu rêver. Mais moi, ce que je trouve, on va revenir à la même chose.
Je rêve pas beaucoup. Hein.
Je trouve hallucinant que des équipes de Ligue 1, parce que les mecs, c'est des professionnels, t'es quand même une équipe d'élite, même si tu vas redescendre en Ligue 2 pour Guingamp, enfin, tu pourrais. À un moment donné, joue là ta finale, fais quelque chose et ne te cache pas derrière des excuses.
Et en plus, ce qui est dommage au final pour ces deux équipes, c'est qu'il y a eu des parcours derrière. Strasbourg qui a éliminé Marseille, Guingamp qui a éliminé d'autres formations. Et ces deux équipes ont mérité d'arriver là quand même.
Alors Strasbourg qui a éliminé Marseille, effectivement, qui a éliminé Lille, qui a éliminé Lyon, ça fait quand même un sacré parcours. C'est les deuxièmes et troisièmes de la Ligue 1 actuellement. Du coup, quelle est la valeur que l'on peut donner à ce trophée qui marque quand même un moment important dans l'histoire du club?
Bah, pour ces clubs-là, c'est un moment historique. Le PSG gagne une Coupe de la Ligue, il s'en cague. Faut pas mentir.
Non, mais si. L'impression que vous avez 82. Non,
pour Guingamp et Strasbourg, c'est un tournant, tu te rends pas compte. Jouer une finale, ça a de la valeur parce que ça t'emmène en Coupe d'Europe et tu sais que l'Europe, ces clubs-là ne la jouent jamais. Donc ça a de la valeur, mais jouer comme ça, c'est ridicule. Après, évidemment que c'est la coupe qui intéresse personne. Les grosses équipes la jouent à partir des huitièmes de finale. C'est en semaine. Bon, les matchs sont pas terribles. Donc voilà, ça emmerde un peu tout le monde. Mais pour ces équipes-là, c'est une bonne compétition.
Quand on a gagné une coupe de la Ligue, dans l'histoire, jusqu'à notre mort, on a gagné cette coupe, on était présent. Le nom, il est là. C'est tout. Après, match caca, boudin, le terrain, on oubliera, on s'en fout. C'est acté. Exactement. Ces joueurs-là ont gagné pour Strasbourg la coupe de la Ligue à telle période. Stop, c'est fini.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde le palmarès de l'histoire de la coupe de la Ligue, on voit que Strasbourg existe, mais bon, évidemment, le PSG est très loin devant avec ses 8 trophées, mais juste derrière, il y a Bordeaux, il y a Marseille et il y a Strasbourg qui en ont gagné 3. C'est majeur, c'est marquant pour ce club alsacien.
Après, c'est pas le même Strasbourg qui l'a gagné par le passé, j'ai envie de dire. À l'époque, c'était un club solide de Ligue 1. Ouais. Pour le coup, qui était toujours dans la première partie de tableau. Là où aujourd'hui, enfin ce week-end, c'était un club qui, il y a 7 ans, était dans le 5e échelon français. Donc là, l'espoir est là réel au final ce week-end. Mais au final, ils ont tellement pas joué cette finale. Alors, ils l'ont gagné au tir au but, c'est très bien. Mais c'est pas du tout le même Strasbourg qui, à l'époque, avec les Dacour, avec tous ces joueurs-là, faisait rêver, on peut le dire, en partie, alors qu'aujourd'hui, cette équipe-là, non.
Ouais, puis, c'est-à-dire qu'à l'époque aussi, quand t'allais en Coupe d'Europe, tu pouvais exister. Évidemment, tu la gagnais pas, mais tu pouvais exister.
Avec quelques exploits.
Ce format-là, il t'emmène au, je crois que tu les fais tous, d'ailleurs, les tours préliminaires, quand tu gagnes la Coupe de la Ligue, ou au moins les deux derniers.
Faut jouer les trois tours préliminaires pour accéder aux poules de la Ligue Europa.
Tu commences à faire deux tours préliminaires plus un tour de barrage.
Donc, ça veut dire que tu joues l'Europe, oui et non. C'est-à-dire que tu reprends la saison
début juin.
Parce que les matchs fin juillet,
Strasbourg démarre normalement le 25 juillet.
25 juillet, et puis tu vas dans des pays quand même un peu lointains, tu vois, en termes de football. Donc voilà, peut-être qu'il y a un manque de motivation aussi. Si elle te qualifiait directement pour les phases de poule, ça serait pas mal.
Mais encore une fois, enfin, quand vous êtes Strasbourg, quand vous êtes Guingamp, vous pouvez pas vous dire ah ouais, non, mais si je vais la gagner, je vais peut-être reprendre les vacances.
Non, entièrement d'accord.
On peut pas l'entendre.
J'espère. Salim, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu sais, ce discours-là, tu l'entends aussi chez les anciens dirigeants de Bordeaux.
Totalement, c'est vrai.
Chez Jean-Louis Trio.
Et on va l'entendre dans les dirigeants de Strasbourg qui, en 7 ans, nous diront on a déjà fait 9 ou 10 matchs, on est fatigué.
Bon, en tout cas, Strasbourg, les éliminatoires, les tours préliminaires et barrages de la Ligue Europa, cette fois, il faudra les jouer vraiment. La 30e journée de Ligue 1 s'est terminée hier soir sur la victoire du PSG à Toulouse. 1-0, but de Mbappé, son 7e en 7 journées consécutives de Ligue 1. Et Paris pourrait être champion de France déjà dès la fin de cette semaine, si les résultats se combinent bien. En attendant, derrière sa cavale, Lille et Lyon continuent de se tirer la bourre. Lille d'abord, 2e avec 4 longueurs d'avance sur Lyon. Lille qui est sorti vainqueur d'un drôle de match hier à Nantes. Pas grand-chose en première période, mais quelle deuxième période. Les Nantais ont marqué 2 buts assez rapidement. Et puis, quand Lille a réagi, eh bien, ça a donné 3 buts en 7 minutes. Scénario incroyable.
Bah, c'est-à-dire la supériorité de cette équipe quand même, parce que tu as eu 5 buts sur 5 tirs cadrés, d'abord, en deuxième mi-temps. Puis c'est-à-dire la supériorité de cette équipe. Après, c'est un match qui résume assez bien la saison de Lille. C'est-à-dire qu'ils ont parfois un trou d'air sur 45 minutes, 1 heure, un peu de manière incompréhensible. Et puis là, sur le coup, il fait un changement tactique, il fait rentrer Léao et remet Bamba à sa place. Et en l'espace de 7 minutes, il plie la rencontre. Donc d'abord, ça prouve que cette équipe n'a pas galvaudé sa place. On ne fait pas 20 journées sur le podium par hasard, même si c'est que la Ligue 1. Puis deuxièmement, c'est quand même un sacré message envoyé. Tu joues Lyon et Marseille au mois de mai, et tu arrives comme ça à retourner la situation, qui est mal engagée, même si Nantes, c'est compliqué au niveau des résultats, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas, d'en mettre 3. Bravo à eux. Ça marque toute la valeur de cette équipe, collectivement, individuellement, dans l'état d'esprit. Ce que Galtier a dû leur mettre à la mi-temps aussi dans le vestiaire, je pense que j'aurais bien voulu y être parce que ça a dû trembler un petit peu. Mais bravo à eux. Et ça prouve que c'est une vraie équipe de Coupe d'Europe, et l'équipe avec laquelle je suis moyennement d'accord la plupart du temps dit c'est une réaction de Ligue des Champions. Pour le coup, c'est vrai.
Après, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte avec Galtier, quand il a des vrais joueurs comme Pépé qui est capable de faire des fulgurances sur 30, allez, tu vois, tu dis mi-temps, même jusqu'à la 60e, ils sont jusqu'au avant le but, ils
se sont il a gagné la Coupe de la Ligue.
Un petit peu réveillé, il est capable de faire progresser le duo Checa Mendes, les deux défensifs pour moi sont le moteur essentiel de Galtier. Ils sont très très bons. Fonte, qui est arrivé aussi, est pour moi une référence. Cette équipe-là, elle ne doit rien à personne, et bravo à eux. Et le talent qu'ils portent, avec Rémi qui revient tous ces joueurs d'expérience ont fait qu'aujourd'hui, Lille, il va falloir les chercher. Et pour aller les chercher, ça va être très compliqué, parce que gagner ce genre de match, ben, ça vous pousse à dire, ben, finalement, il reste quoi, 10 journées? Ben, finalement, on va aller au bout. Hein, on va pas lâcher maintenant, parce que lui, en plus, il marque dans les arrêts avec Terrier en fin de match. Ben, finalement, ils sont là.
Fonte, pour moi, c'est la belle trouvaille de Galtier, parce que quand il avait quitté Southampton pour la Chine, il disait bon, allez, le mec, il va aller prendre son chèque, c'est fini, fin de carrière et tout ce qu'on veut. Enfin, le rappeler, pour moi, c'était un pari plus que risqué. Enfin, et au final, il a réussi à en faire un très bon défenseur. Chapeau à Galtier.
Rigueux,
et à un degré moindre, on parlait de Liverpool, la fin des matchs, ils réussissent à le faire. Mais là, ce genre de situation, alors que vous êtes mené 2-0, renversé à la peur, gagné 3-2, c'est une attitude, alors pas de champion, mais en tout cas de qualifié pour la Champions League.
Non, mais d'un autre côté, si tu mets toujours la comptabilité de Paris mise à part, mais le parcours de Lille cette saison, c'est un parcours sur une saison normale, c'est-à-dire sans le PSG des Qataris, de champion.
Bien sûr.
Ils ont le parcours d'un champion et l'attitude d'une champion.
Voilà. Alors, vous avez parlé de Sheka et Thiago Mendes, effectivement, ça bosse beaucoup dans l'entrejeu, mais devant, l'homme qui brille, c'est forcément Nicolas Pépé, qui a marqué un but. Le deuxième de son équipe, donc sur penalty, l'égalisation, et puis une passe décisive ensuite pour le troisième but lillois, celui de la victoire. On dit parfois que les internationaux africains qui reviennent des équipes nationales sont, si c'est pas blessé, bon, lui, la trêve internationale lui a pas fait de mal.
Non, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui lui fait du mal à lui cette saison. Il marche sur l'eau, il réussit tout. Galtier, il est pas pour rien. On avait discuté un petit peu avec lui quand on l'a rencontré il y a quelques semaines. Il nous disait énormément de bien de ce joueur, très à l'écoute, qui a pas toujours, qui fait pas toujours ce qu'il faut en termes de bons choix sur le terrain, mais qui a un tel talent et une telle énergie que finalement il arrive à compenser. Donc voilà, bravo à lui. Après, Pépé va falloir qu'il fasse les bons choix en fin de saison. C'est-à-dire qu'il va pas falloir qu'il nous fasse une Moussasso, faire une saison terrible, finir meilleur buteur ou co-meilleur buteur, et puis derrière se barrer en Turquie et claquer sa carrière comme ça. Il va avoir beaucoup de demandes.
Vous voulez pas qu'il aille en Turquie?
Bah moi j'aimerais qu'il reste en France. Je voudrais même pas qu'il parte nulle part. Quoi. Moi je voudrais qu'il reste en France parce qu'il est très bon, il marque des buts, il fait
c'est
un
ça,
peu rêver.
Qu'on en profite effectivement en Ligue 1, mais après on sait que des grands noms vont s'approcher de lui. Le Bayern a fait une offre, puisque Gérard Lopez à demi mot l'a sous-entendu au final. Alors on évalue cela peut-être à 50, 55, 60, on ne sait pas. Mais effectivement les grands noms vont arriver. Donc le Bayern, on l'a dit, la Première Ligue aussi. Et à un moment donné, Gérard Lopez, quand il va voir ses 55, 60, 65, 70, il va même lui dire: mais Nicolas, en fait, tu vas partir.
Ah oui, c'est ça, c'est aussi
le problème, c'est que Pépé, vous le regardez.
C'est l'avenir aussi du joueur qui s'il a envie de bouger aussi.
L'avenir du joueur, oui, mais enfin, l'avenir du joueur qui conditionne l'avenir du club. Donc si t'as un chèque, comme dit Salim, à 50 ou 60, on va lui expliquer, il faut qu'il parte.
C'est aussi financièrement, quand on va lui dire, là-bas, tu as 80 000 nets par semaine, et en France, t'as 80 000 bruts par mois. Ah ouais, d'accord. Bah finalement, je crois que c'est où le shuttle. Allez hop, j'y vais.
Alors vendredi, Lyon est allé battre Rennes 1-0 avec ce but de Terrier en fin de match, une minute d'ailleurs après avoir failli encaisser un but.
Souvent ça, Lyon. Hein.
Est-ce que l'OL est en mode fin de saison comme l'année dernière où on les avait vu gagner 9 fois sur les 10 dernières journées?
Est-ce qu'on est parti pour ça?
C'est
tout le temps pareil.
C'est pas que l'année dernière. Chaque fois, et on parlera de Marseille dans un instant. Marseille, j'ai souvent l'impression que c'est l'inverse. Genre sur les fins de saison où ils galèrent beaucoup. Ben Lyon, on peut leur reprocher beaucoup de choses tout au long de la saison.
Ils
parfois des
contre-performances
face à des petits. Mais en revanche, sur les fins de saison, ils ont ce petit truc en plus avec des joueurs qui sortent du lot. Alors là, c'est Terrier, très bien, mais Fekir qui rehausse son jeu. Traoré va être là. Depay, comme par hasard, va revenir dans le jeu. Lyon réussit ça souvent.
Ah, il faut qu'ils reviennent parce que ça, pour le moment, c'est moins acté. Depay, Fekir, Traoré. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. On parlait de Terrier. Terrier, il est entré en jeu. C'est encore un choix de Genesio. Mm-hmm. C'est encore Genesio qui fait coaching gagnant.
Et Traoré dans l'action aussi.
Et je pense qu'à un moment donné, sur la fin de saison, et c'est d'actualité puisque Aulas se réunit ce soir avec son conseil d'administration. La nouvelle devrait être donnée demain ou après-demain.
Ben ouais, alors Genesio va être prolongé.
A priori, il va être prolongé 2 ans avec une option supplémentaire s'il y a Ligue des Champions. Mais sur cette fin de saison, les choix de Genesio vont aussi pas mal conditionner les résultats. Et moi, je serais pas étonné qu'un mec comme Terrier, à un moment donné, s'installe un peu plus dans cette équipe, parce que s'il marque tout le temps, et en plus il y a une complicité avec Léo Dubois qui est quand même assez flagrante et assez décisive, très très fort Léo Dubois.
Lui aussi, c'est lui qui centre.
Oui, et lui aussi, choix de Genesio, il est pas numéro 1 au départ de la saison. Donc ça aussi, mais il va falloir que tout le monde se mette au diapason, parce que quand on dit la saison dernière, les saisons d'avant, Lyon faisait des sprints, oui, mais sur les 10 matchs, comme tu disais, il y a 9 victoires en 10 matchs, oui, mais il y avait 10 buts de Depay. Il devait y avoir 6 ou 7 passes décisives de Fekir. Il va falloir que ces joueurs-là, à un moment donné, rehaussent leur niveau sur les 7-8 matchs qui restent, parce que quand on va faire le bilan à la fin de saison, on sera peut-être moins dithyrambique que les saisons précédentes.
Et Lyon devra aussi gérer la Coupe de France, puisque ce mardi, il accueille Rennes en demi-finale de cette Coupe de France. Et puis donc, en Ligue 1, il y a Marseille.
Aïe.
Qui a fait, bah oui, aïe. Parce que tout allait bien, l'OM menait 2-0 au Vélodrome, et puis après un doublé de Mario Balotelli dans le premier quart d'heure, et puis il y a eu deux pénaltys concédés par les Marseillais, et Angers, qui a même failli gagner d'ailleurs, termine avec ce résultat nul de 2-2. On écoute la réaction de l'entraîneur de l'OM avant d'en discuter, Rudy Garcia.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait 30 bonnes premières minutes en première période, mais on s'est arrêté d'attaquer et puis je pense qu'on a fait des choses moins simples. On s'est compliqué la vie. On est sorti individuellement de son registre et on leur a donné des munitions. Voilà. Après, quand on prend deux pénaltys à domicile et un carton rouge, ça devient compliqué pour gagner. Même si à 10, on a tout fait pour le gagner. Mais on s'est un peu fait mal tout seul en prenant des cartons préjudiciables aussi. Donc voilà, il faut pas confondre envie et excès d'engagement.
Marc, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Elle est juste?
Je sais pas, puisque après 2-0, ça y est, c'est Balotelli, il met encore deux buts, donc il est sur les records de Scoblard, de ceci, de cela, tout le monde s'enflamme, c'est guinguette, mais à l'arrivée, il y a une équipe en face. Mais eux, ils lâchent pas. Marseille dit, oh, ben, c'est tranquille, on Rami de retour qui est dans le dur, très très dur.
Il n'avait pas joué depuis deux mois, hein,
ouais,
c'est
non,
ça.
Mais c'est, il est,
il de toute façon, c'est plus un joueur.
Il est vraiment, voilà, il est plus dans le coup et à l'arrivée, c'est très compliqué. Après, on parlera sûrement de Balotelli, mais Balotelli, pour moi, c'est pas possible, même s'il mène doublé. C'est pas possible de garder un joueur comme ça. Voilà. Peut-être qu'on aura le temps dans une autre émission ou là, si on a le temps, mais.
Bah, allons-y, parlons de Balotelli. Ouais,
mais Balotelli, c'est pas possible. Je veux bien, après, on peut pas jouer à 10, quoi. On peut pas jouer à 10, ça n'existe pas.
Pas sur le premier quart d'heure.
Si, vous savez, quand vous savez, on peut jouer à 10, c'est quand on est un joueur comme peut-être Léo Messi ou Ronaldo, c'est-à-dire qu'on nous sert, on est un seigneur, et il y a 3 ballons, 4 buts, voilà. Voilà, Marc, ça, c'est ça. Marc. Et lui, Balotelli, le problème, c'est qu'il ne fait pas défaut.
Marc, quand
et c'est un gros
Marc,
problème.
Quand tu jouais avec Mitroglou, tu jouais à combien?
Mais ça n'a rien à voir.
Tu joues à 10.
Ça n'a rien à voir.
Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Parce qu'avec Mitroglou, tu joues à 10 et tu marques pas de but.
C'est pas vrai.
Là, tu joues à 10 et tu marques des buts. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, Marc.
C'est pas la même chose.
Même si dans les faits, effectivement, Balotelli ne participe pas au jeu. Ça, on est tous d'accord.
Mais il n'a jamais participé au jeu.
Exactement.
Ça a 28 ans qu'on se réveille qu'il participe au jeu.
Mitroglou faisait les efforts.
Germain aussi faisait des efforts.
C'est le système de jeu qui était pas bon.
Marc, là, je pense presque à l'attaquant vous avez été. À un moment donné, quand vous êtes le buteur et que vous voulez marquer ces buts. Alors, on a parlé des records, etc. Mais peu importe. Vous, au moins, Balotelli, il soulage, il donne de l'air, il donne du soulagement à ses supporters. Donc,
mais si vous
on
connaissez
le football,
faire, entre guillemets. On peut pas garder Balotelli si on connaît le football.
Mais je connais bien
tout
Marc,
ça, on le
Marc,
sait.
Marc,
donc faut pas le garder. L'année prochaine, tu dis, t'as pris 1 million par mois, t'es gentil, merci. Et on prend quelqu'un qui marque des buts et qui fait jouer le groupe. Lui, il est individualiste, il ne joue pas pour le groupe.
Mais
il
évidemment.
Ne te sert à rien. Les autres doivent faire deux fois plus d'efforts. Alors tu les fais sur 1, 2, 3
mais
matchs.
Mais il te marque
gagnes,
des buts.
Et puis
il te ramène des points.
Et ben tu lâches.
Et il va t'attraper l'Europe. Et il te marque des buts. Il va t'attraper l'Europe. Je suis entièrement d'accord. Sur le fait qu'il joue pas pour l'équipe, que t'es à 10, qu'il est pas collectif, mais il a 28 ans, si c'est aujourd'hui qu'on se réveille que Balotelli court pas, il défend pas,
mais en
là,
revanche, il claque des buts.
Mais il claque des buts. Et qu'à un moment donné, moi, si j'essaye d'être supporter marseillais 2 minutes, je me dis, j'ai le choix entre un mec qui court, qui fait des efforts, qui me met rien, je termine 9e. Et un type qui court pas, qui fait pas d'efforts, qui s'en fout, qui me met 10 pions et qui me met 4e et je fais la Ligue Europa. Mais je le prends, ce mec-là.
Attention, il reste 10 journées.
Bien sûr.
Balotelli, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il va pas rester. De toute façon, il veut rentrer en Italie.
Les joueurs vont faire l'effort. Un match, deux matchs, trois. Et puis là, ils commencent à en avoir assez.
Ils en ont assez. Mais il te
même s'il marque
des buts.
Un groupe, il faut le faire vivre. Lui, il peut pas le faire vivre, il veut le détruire.
Non, il veut pas le faire vivre. Mais à la rigueur, si lui veut servir du groupe pour le détruire et rentrer en Italie, mais Marseille a qu'à être plus malin, plus vicieux, se servir de lui et le dégager. Mais à un moment donné, si t'es Marseillais, si t'es dirigeant marseillais, si t'es supporter marseillais, que t'as choix entre un mec qui court, qui te met 0 pion et tu finis 9e, un type qui va te claquer 10 buts et qui va t'attraper l'Europe, tu le prends parce qu'il faut
penser
au moyen terme. Il faut penser à la qualification européenne et à ce que tu vas pouvoir t'en servir et vendre pour recruter.
Il reste 10 journées, on verra si
en
fin de saison
ils sont 8 journées en fait. Hein,
8 journées, ouais. S'ils sont sur le podium et toi.
Non mais tu peux faire 4 voire 5e. Si Paris ou Lyon gagne la Coupe de France, t'as la 5e place qui est ouverte.
Oui. C'est terminé la C1. La Ligue des Champions.
Ah bah oui, 8 points de retard sur Lyon. Oui. On parlait des dynamiques d'un côté l'OL et Marseille qui parfois fait poser, questions. C'est un fait. Pensons Europa League simplement à Marseille, rien d'autre.
Mm-hmm. Ce qui est sa place,
c'est pas le but.
Hein. Ce qui est la place de l'OM. Hein,
c'est terrible.
Mais c'est même pas le but, quoi.
Non, à la base,
ça sert à rien, quoi.
Exactement, bien sûr. C'était pas ça, mais malheureusement aujourd'hui, Lyon, Lille sont largement au-dessus. Ouais.
Merci beaucoup, messieurs, pour ces débats très intéressants et enflammés. Merci Marc Libra, Naïm Moniol, Salim Bongali. Merci à David Finzel, Laurence Alerno. À demain pour un autre Radio Foot avec le retour d'Alain Gasnier.